Avec Suno Assurance, pensez à renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Il se cache sous les pierres, s'enroule discrètement autour des branches, glisse silencieusement dans les herbes hautes. Il tue 250 personnes chaque jour. Vipère du Gabon et des pyramides, mamba noir et vert, cobra du Mozambique. Les serpents, leur morsure provoquerait chaque année entre 81 000 et 138 000 morts. Près de la moitié en Inde, 25 000 décès pour l'Afrique, serpents, scorpions. Depuis 2 ans, l'envenimation a été classée par l'Organisation mondiale de la santé au rang des maladies tropicales négligées et l'OMS a rendu public un plan dans lequel cette agence de l'ONU souligne une urgence très concrète pour mieux prendre en charge ce risque sanitaire qui provoque de très lourdes et nombreuses séquelles. Cet impératif, c'est d'augmenter la production d'antivenins de qualité, favoriser leur accès au plus grand nombre, en particulier aux populations rurales des pays en développement qui sont les plus susceptibles de croiser ces reptiles. Rendre les sérums antivenimeux disponibles, mais aussi mieux connaître les risques et former les personnels soignants afin d'apporter dans les délais les plus brefs possibles une réponse adaptée. Morsures de serpents, piqûres de scorpions, 2 millions de cas signalés chaque année. Nous parlons de l'envenimation, donc aujourd'hui dans Priorité Santé. Avec vous, professeur Jean-Philippe Chipot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Vous travaillez également, professeur Chipot, au sein d'une équipe de l'Institut Pasteur de Paris. Tout à l'heure, nous allons retrouver au Sénégal le docteur Absalam Faye, responsable de l'information toxicologique au centre antipoison de Dakar. Docteur Faye, qui est également secrétaire général de la Société africaine de vénimologie. J'espère que je l'ai bien dit. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Alors, l'envenimation, je l'ai dit, a été classée maladie tropicale négligée par l'OMS. Qu'est-ce que ça a changé, professeur Chipot ?
Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Si on retrace l'histoire de cet apport de l'OMS, il faut se souvenir que dans les années 70-80, personne ne parlait des envenimations, personne ne parlait des morsures de serpents, ni des piqûres de scorpions. Il y avait quelques articles dans la presse médicale et scientifique de temps en temps, mais c'était extrêmement rare. C'était considéré comme un événement sur lequel on n'avait pas de prise et donc il fallait subir. Et nous avons fait avec un certain nombre de collègues, notamment en Afrique, mais également en Asie et en Amérique du Sud, nous avons fait tout un travail pour montrer que c'était d'abord un événement qui était très fréquent, qu'ensuite il avait des conséquences très graves, non seulement en termes de mortalité, mais aussi en termes d'invalidité, même en termes de choc émotionnel. Et progressivement, les scientifiques d'abord, les autorités de santé ensuite, puis l'OMS se sont finalement intéressés à la question. Et à partir de 2007, il y a eu toute une campagne qui, comme vous le rappeliez tout à l'heure, en 2017 a abouti à l'inscription des envenimations par morsure de serpent dans la liste des maladies tropicales négligées. Ça a changé une chose essentielle, c'est l'accès aux ressources. Avant, nous n'avions absolument rien et toutes nos enquêtes, nous les faisions sur fonds propres ou en profitant parfois d'autres enquêtes sur le paludisme, sur le VIH ou sur d'autres maladies. Et là, maintenant,
ça a dégagé des budgets.
Nous avons des budgets, 80 millions de livres par le Wellcome Trust, la fondation Bill et Melinda Gates qui nous promet, Melinda et Bill Gates, qui nous promet de s'intéresser également à la question, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe.
Alors, quand on a été piqué par un serpent, est-ce que c'est clé justement, la question clé de connaître l'espèce qui nous a mordu précisément, ou est-ce que finalement on peut simplement aller dans un centre de santé, professeur Chipot, et dire voilà, examiner ma morsure, essayer de voir ce qui s'est passé?
Alors j'aimerais pouvoir vous répondre qu'il suffit d'aller dans un centre de santé pour trouver une solution. Malheureusement, ça n'est pas si simple. Effectivement, depuis une quarantaine d'années, et c'est acquis depuis 20 ans environ, nous assurons la promotion d'antivenins polyvalents. C'est-à-dire que autrefois, il y avait un antivenin pour chaque espèce. Et donc, il fallait identifier le serpent, voire le scorpion, pour savoir quel était l'antivenin qu'il fallait appliquer. Ça n'était pratiquement pas réalisable, parce que le personnel de santé ne pouvait pas identifier le serpent n'était pas forcément à portée, les gens ne savaient pas ce qui les avait mordus. Et donc, nous avons demandé aux fabricants d'antivenins de faire des polyvalents. Ces polyvalents, qui sont aussi efficaces que les antivenins qui existaient contre une seule espèce, ces polyvalents couvrent toutes les espèces ou presque toutes les espèces venimeuses d'une région donnée.
C'est comme quand on dit un spectre large, par exemple, pour des antibiotiques.
Voilà, tout à fait. Et donc, par conséquent, il n'est plus nécessaire d'identifier le serpent.
Tout à l'heure, vous avez dit l'attraper, mais c'est plutôt déconseillé d'essayer d'attraper un serpent quand on a été mordu, j'imagine.
Alors, en fait, les personnes, notamment en Afrique et aussi en Asie, les personnes qui sont mordues tuent le serpent. Pour plein de raisons. D'abord parce que ils veulent se venger d'une certaine façon de la morsure. D'autre part, ils l'apportent effectivement au thérapeute traditionnel qui va l'utiliser
dans la fabrication des potions
qu'il va administrer aux patients. Et donc, par conséquent, c'est un phénomène qui est relativement courant. Donc si effectivement la personne apporte le serpent, ça nous permet, nous, de savoir, pour un intérêt purement scientifique, quel est le serpent agresseur.
Et justement, quand on est sur le continent africain, on va dire Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, quelles sont les espèces qu'on a le plus le risque de croiser, professeur Chipot ?
Alors, en savane, de loin, c'est ce qu'on appelle l'équis ocellatus. Enfin, il y a plusieurs espèces, mais principalement cette petite vipère qui mesure une cinquantaine de centimètres environ, que l'on trouve un petit peu partout, jusqu'à y compris dans les maisons et même en ville. Hein, on a des personnes qui sont mordues en ville. Ça, c'est en région de savane.
Est-ce que dans chaque coin, dans chaque territoire, on lui donne un nom différent au niveau local, c'est ça ?
Tout à fait. Localement, il est très connu. Hein. Alors, c'est Fonfouni au Mali. Enfin, il y a chaque ethnie, chaque langue a sa dénomination. Ça représente 80% des envenimations, à peu près. Et c'est un véritable problème dans toute la savane. En forêt, c'est un peu plus compliqué parce que il y a plus de serpents, d'une façon générale. Et surtout, il y a énormément de serpents non venimeux qui peuvent mordre et qui mordent des personnes, donc avec relativement peu d'envenimation au total.
Et justement, le venin, il peut avoir un effet tout à fait différent sur l'organisme en fonction de ses composantes. Est-ce qu'on peut décrire précisément, professeur Chipot, l'effet sur le corps de cet empoisonnement ?
Oui, alors vous avez deux grands groupes de serpents. Vous avez les vipères, dont je parlais tout à l'heure de cette fameuse équisse en savane. Les vipères provoquent une inflammation, c'est-à-dire un édème, une douleur d'abord, très très vive, un édème qui peut être extrêmement important et prendre tout le membre, voire plus, et puis des hémorragies et parfois des nécroses, c'est-à-dire une destruction des tissus autour de la morsure qui peuvent remonter le long du membre et même faire perdre le membre dans sa quasi-totalité. Les vipères, on les trouve partout en Afrique subsaharienne, mais plus particulièrement, plus souvent en savane. En forêt, on va au contraire trouver une majorité du deuxième groupe de serpents qu'on appelle les élapidés, ce sont les cobras et les mambas. Il en existe aussi en savane, bien sûr, mais ils sont un peu moins fréquents. Et les mambas et les cobras, eux, ont une action neurologique. La morsure est peu douloureuse, généralement il n'y a pas d'édème. En principe, il n'y a pas de nécrose, pas de destruction des tissus, mais par contre, il y a une paralysie respiratoire et le patient meurt de cette paralysie respiratoire.
Professeur Chipot, un risque de croiser le chemin d'un serpent quand on travaille au champ, lorsqu'on se trouve en forêt, et puis des professions très particulières qui sont exposées à ce risque.
Priorité santé sur RFI.
Avec cette illustration à l'occasion de l'exposition Poison qui se tient jusqu'au 11 août prochain au Palais de la Découverte à Paris. Au lieu des toiles ou des sculptures habituelles, ce sont des vivariums, ces cages de verre où l'on retrouve crotal, migale et autres vipères cornues. Une trentaine d'espèces parmi les plus dangereuses au monde. Et pour veiller sur ces petites bêtes, eh bien, les soigneurs, parmi eux Jérôme Contignac, en matière de manipulation des animaux, la procédure est forcément très sécurisée. Héloïse Bajou s'est rendue sur place.
So, that's the warning.
Donc, premier, il met les gants de protection. Ce sont des gants spéciaux qui empêchent les morsures. Les crochets ne passent pas à travers. Il regarde où est le serpent et comment il est positionné. Il ouvre le terrarium en utilisant le crochet pour ne pas avoir les mains trop près du serpent malgré qu'il a les gants. Ensuite, il va le prendre avec les crochets. C'est pas toujours évident. Et puis après, il le met dans la grosse poubelle, dans le bac qu'on s'est refermé avec les poignées pour ne pas qu'il puisse ouvrir le couvercle.
Donc ça, c'est le genre de manipulation que vous faites à quel moment ?
Pour le nettoyage, pour changer l'eau s'il est trop près du bac à eau, pour l'entretien en général.
En gros, vous le faites combien de fois par semaine ?
Ça dépend des serpents, il y en a qui n'ont pas besoin d'autant d'entretien, mais faut au moins minimum une à deux fois par semaine par serpent. On regarde aussi l'animal pour voir s'il est en bonne santé. Tant qu'on le manipule, on en profite.
Donc vous travaillez au quotidien avec ces espèces qui sont potentiellement dangereuses. Quelles précautions est-ce que vous prenez pour les manipuler au quotidien ?
Alors on a des ustensiles pour pouvoir les manipuler. On a des crochets, on a des pinces, on a des gants spéciaux pour se protéger. On évite de manipuler quand ce n'est pas nécessaire. Pour notre mamba, on a aussi une cage de contention. Où est-ce qu'elle rentre dedans pour nous pouvoir entrer dans la cage sans devoir interagir avec ?
Du coup, est-ce que les comportements sont différents en fonction des espèces ?
Oui, bien sûr. Toutes les espèces ont un mécanisme de défense qui est... par exemple, beaucoup de vipères vont souffler ou frotter leurs écailles pour faire un bruit assez puissant, assez fort pour éloigner le potentiel prédateur ou nous prévenir qu'ils sont là. Nous, ici, on a l'avantage de savoir où est-ce qu'ils sont dans le terrarium avant de pouvoir interagir avec. Ça, il faut bien le connaître pour pouvoir interagir avec.
Une morsure, est-ce que ça fait mal ?
Alors, ça dépend du genre de serpent qui mord. Il y a des serpents qui font des morsures extrêmement douloureuses et il y a des morsures qui ne font pas mal du tout. On a un peu de tout sur l'exposition, donc c'est à chaque serpent son cocktail de venin différent.
En cas de morsure, est-ce que vous avez des conduites à tenir ? Quelles sont les actions que vous mettriez en place ?
Alors oui, on a un protocole pour les morsures. On doit prévenir tout de suite la sécurité, l'hôpital est prévenu. Il faut rester le plus calme possible et bouger le moins possible pour éviter que le venin voyage trop vite dans le sang. Et on est tout de suite emporté à l'hôpital.
Est-ce que vous avez une trousse d'urgence ? Est-ce que vous avez des antidotes à disposition ?
Alors, on n'a pas les antidotes sur place. C'est l'hôpital qui les a. Maintenant, on a une petite trousse qui peut servir, mais c'est pas les soins basiques pour les morsures. C'est pas le principal.
Reportage signé Héloïse Bajouin dans le cadre de cette exposition Poison au Palais de la Découverte à Paris. On vous retrouve, professeur Jean-Philippe Chipeau. On a entendu quelque chose à faire en cas de morsure. Il y a aussi, on a peut-être envie de dire surtout ce qu'il faut ne pas faire lorsqu'on a été mordu par un serpent.
Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est mettre un garrot, parce que ça augmente les lésions locales. Il ne faut rien faire d'agressif, en tout cas, sur la morsure. Autrefois, on recommandait de mettre de l'acide, de brûler la région. Bon, tout ça, c'est totalement inutile. Le venin diffuse très vite et vous ne faites qu'aggraver les lésions locales.
Pareil, les dispositifs aspi-venin ou autres, ça n'est pas efficace ? Alors,
ça n'est pas efficace. Ça récupère environ, on a fait le calcul sur différents modèles animaux, et ça récupère environ 1/1000 de la dose injectée. Donc, autant dire rien du tout. Et par ailleurs, certains dispositifs sont assez agressifs et peuvent augmenter le risque de lésions locales.
Professeur Jean-Philippe Chipeau, on parle aussi des scorpions. Hein. Les scorpions, est-ce qu'on a les mêmes risques pour les serpents ou est-ce que là aussi, on va avoir des espèces qui vont être beaucoup plus dangereuses que d'autres ?
Alors, on n'a pas tout à fait les mêmes risques que pour les serpents, parce que déjà la quantité de venin est beaucoup plus faible. Inoculé par un scorpion, même si le venin du scorpion est un petit peu plus toxique que celui du serpent, il y a quand même une quantité beaucoup plus faible. Par ailleurs, il y a effectivement des scorpions qui sont très venimeux. Hein, ce sont dans l'ensemble, on va dire, les butidés, c'est-à-dire les scorpions que l'on trouve en Afrique du Nord, que l'on trouve au Mexique, dans certains pays. Alors que, par exemple, les scorpions qu'on trouve en France ou en Afrique subsaharienne ne sont pas très toxiques. Donc, il y a des scorpions plus toxiques que d'autres. Et puis après, compte tenu de la quantité de venin et des propriétés de ce venin, les adultes ont relativement peu de risques. Il y a quelquefois des troubles cardiaques mais respiratoires, mais en général, c'est pas très, très grave. Par contre, les jeunes enfants, eux, peuvent en mourir, notamment les très jeunes enfants, hein, en dessous de 4 ans, 4-5 ans. Et ça arrive qu'ils soient piqués parce que le scorpion se glisse partout, ils rentrent dans les maisons, ils peuvent même aller dans les berceaux. Et donc, par conséquent, la fréquence de piqûres est assez élevée. Et ce sont des piqûres très graves.
Alors ça répond en partie à la question de Daman qui est au Sénégal. Est-ce qu'une piqûre de scorpion peut être mortelle? On l'a donc compris, quand c'est un enfant en bas âge, ça peut effectivement. Et entraîner un handicap, professeur Chipot?
Non.
Non.
Il y a d'exceptionnels cas de cécité temporaire qui peuvent durer quelques semaines, voire quelques mois, qui ont été décrites dans la littérature. C'est extrêmement rare. D'une façon générale, les venins de scorpion, comme les venins de cobra et de mamba, n'ont pas de séquelles, il n'y a pas de séquelles.
Alors, autre question, hein, Facebook, c'est Bruce qui est à Kinshasa cette fois. Ça concerne les scolopendres. Comment se faire soigner après avoir été piqué par un scolopendre? Est-ce que là encore, toujours même question, est-ce que sa piqûre est mortelle?
Non, la piqûre de scolopendre n'est pas mortelle, mais elle est extrêmement douloureuse. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre un antalgique. Les antalgiques, c'est-à-dire comme par exemple le paracétamol habituel, ne sont pas efficaces. Il faut des antalgiques beaucoup plus puissants, de deuxième ou troisième ligne, voire même une anesthésie locale. Dans certains cas, qui ne peut être évidemment faite que dans un hôpital.
Et sur la durée de ces douleurs, ce sont des choses qui persistent, sur leur persistance?
Ça dépend, mais en général, c'est quelques heures, voire quelques jours.
Alors, on va tout de suite prendre en ligne, hein, les auditeurs de Priorité Santé, professeur Jean-Philippe Chipot.
RFI.
Alors, première question, on va rejoindre tout de suite le Congo-Brazzaville, la ville de Dolisi, où on retrouve Cédric. Bonjour Cédric.
Bonjour.
On vous écoute, allez-y, le professeur Chipot est à votre écoute.
Voilà, moi je suis à Dolisi, mais j'évolue plus dans la zone du Mayom, et une grande forêt dense. Et là, j'ai été piqué par un mamba vert. Après la morsure dans le village, j'ai eu quelqu'un qui m'a traité avec une pierre noire. Cette pierre, en Afrique, on l'utilise pour rejeter les venins des serpents. Donc je voulais savoir, est-ce que ça n'a pas de conséquences après cette morsure-là?
La question que je vous pose justement, Cédric, c'est aujourd'hui, quel est un petit peu l'aspect de votre morsure et comment est-ce que vous vous sentez?
Bon, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, je me sens bien, je vis normalement. Mais la crainte est que, est-ce que cette morsure-là aura des conséquences en l'avenir dans ma vie?
Professeur Chipot, on va d'abord revenir sur ce remède traditionnel, hein, que cite Cédric, la pierre noire. Quand on fait des émissions sur l'envenimation, ça revient régulièrement. C'est quelque chose de connu en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Déjà, de quoi s'agit-il?
Alors, la pierre noire est un petit morceau d'os de bœuf qui a été préparé, cuit pendant plusieurs jours dans un milieu particulier, enfin à l'étouffer, si je puis donner cette définition, et qui est donc particulièrement absorbant, on dirait même adsorbant, c'est-à-dire qu'il, comme une éponge, il aspire tous les liquides. Il aspire en particulier la transpiration et le sang. Il n'aspire pas le venin parce que le venin diffuse très vite Où est fixé au niveau des cellules, et donc par conséquent il n'a pas cette capacité d'aspirer le venin. Nous avons fait l'expérience, on a utilisé la pierre noire sur un modèle animal, et on a vu qu'on récupérait extrêmement peu de venin avec la pierre noire, un millième, c'est ce que je disais tout à l'heure, un millième de la quantité de venin que nous avions inoculé à l'animal.
En tout cas, peut-être que cette pierre a déjà un effet apaisant sur, au niveau psychologique, on se sent davantage en sécurité parce qu'on a trouvé un remède.
Voilà, alors d'abord je voudrais rassurer Cédric, il n'y a aucun risque, enfin il n'y a pas de conséquences. Quelle que soit la gravité de la morsure de Mamba, les conséquences sont immédiates. C'est-à-dire que vous avez une envenimation avec un risque de paralysie respiratoire et un décès qui survient dans les heures qui suivent la morsure, entre 1 heure et 8 heures après la morsure. Si vous passez ce cap, vous n'avez plus aucune séquelle, vous n'avez plus rien. Le venin est éliminé complètement de l'organisme et il n'y a donc aucun
risque. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de venin ou la morsure n'a pas été assez profonde ?
Il y a 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est que ça n'était pas un mamba. Une très grande, il y a énormément d'espèces de serpents, particulièrement en zone forestière en Afrique centrale, et particulièrement dans le Mayombe, que je connais bien, il y a beaucoup de couleuvres qui sont vertes, que tout le monde considère comme des mambas verts, mais qui en réalité ne sont pas des mambas verts. Ce qui ne veut pas dire que Cédric n'ait pas été mordu par un mamba vert. Mm-mm. Parce qu'il y a une deuxième hypothèse, qui est celle que le mamba n'est pas injecté de venin. L'injection de venin par un serpent venimeux est un phénomène volontaire. La morsure peut simplement être une façon d'avertir la personne que il faut pas l'embêter. Mmh. Et c'est assez efficace d'ailleurs.
Oui, j'imagine. On insiste rarement. Hein.
Voilà. Alors la troisième hypothèse, c'est que l'envenimation ait été, du fait d'une très faible quantité de venin, ait été très très minime, très mineure. Et ça, bon, je peux évidemment pas le déterminer maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que apparemment, il n'y a pas eu d'envenimation grave. Et de toute façon, 2 ou 3 jours après, si l'état de santé est bon, 2 ou 3 jours après la morsure, ça veut dire que tout risque est écarté.
Voilà, donc ça c'est rassurant. Cédric, moi j'ai juste une dernière petite question. Vous avez utilisé cette pierre noire, vous n'avez pas eu envie d'aller vers un centre de santé pour essayer de voir s'il y avait un antivenin, d'aller voir un médecin ?
Bon, après, comme il n'y avait pas de réaction immédiate, aucune éruption cutanée ni douleur après.
Vous en êtes tenu à ça.
En tout cas,
j'imagine qu'avec la réponse du professeur Chipot, à présent, vous êtes rassuré. On vous remercie beaucoup et on vous souhaite une excellente journée. Cédric, on part pour le Niger, pour Zinder. Retrouvez Omar. Bonjour Omar.
Bonjour.
On vous écoute, allez-y. Omar, vous êtes avec nous ? Eh bien Omar, on a entendu votre bonjour, mais ça s'est arrêté là. Alors, on va essayer d'avoir un autre auditeur en ligne tout de suite. On va essayer de passer à Souleymane, qui est au Burkina, dans la ville de Banfora. Bonjour Souleymane.
Bonjour Caroline.
Alors bonjour, docteur. J'espère que l'échange va bien pouvoir se faire cette fois, qu'on va aller un petit peu plus loin avec vous. On vous écoute, allez-y.
Alors moi, j'ai été piqué, quand j'avais l'âge de 11 à 12 ans, j'ai été piqué par une scorpion. Mm-hmm. Bon, Abdullah a testé pendant une semaine. Mm-hmm. Maintenant, quand j'étais en primaire aussi, j'ai été piqué encore par le même scorpion. Mais ça, la douleur, ça n'a fait que une journée, deuxième journée, je n'avais même plus presque aucune, je n'avais pas de douleur. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que ce n'était pas le même type de scorpion ou bien c'est dû à une réaction au niveau de mon organisme?
Professeur Chipot, sur une même zone, plusieurs espèces de scorpions peuvent cohabiter ?
Tout à fait, d'autant plus que dans la région de Banfora, il n'y a pas de scorpions mortels. Tous les scorpions sont venimeux, hein, ça c'est. Mais leur venin n'est pas forcément très toxique et la plupart des scorpions ne déterminent pas une envenimation grave. Et encore moins mortel. Là, il y a 2 hypothèses, Souleymane. La première hypothèse, effectivement, ça pourrait être une espèce différente. Mais en principe, comme tous les scorpions sont venimeux, c'est toujours douloureux. Donc, je ne privilégie pas cette hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que tout simplement, le deuxième scorpion, n'a pas injecté de venin ou très peu de venin. Car le scorpion, comme le serpent, peut ne pas injecter de venin. lorsqu'il pique. Et donc, par conséquent, vous pouvez avoir, dans le meilleur des cas, une douleur relativement faible, comme une piqûre d'épingle, peut-être un petit peu plus douloureuse et un petit peu plus inflammatoire, parce qu'il y a toujours des traces de venin quand même, dans le meilleur des cas. Et puis, dans le pire des cas, vous avez une injection de venin importante, et à ce moment-là, la douleur est très importante, et elle peut durer effectivement jusqu'à une semaine, comme vous avez eu l'expérience dans, lorsque vous aviez 11 ans.
Alors voilà, Souleymane, pour cette réponse. On vous souhaite une très bonne journée au Burkina Faso. On a retrouvé Omar et on va lui donner la parole. Il n'y a pas de raison. Omar, toujours au Niger, toujours à Zinder. Et on vous dit rebonjour, Omar.
Bonjour, Caroline. Bonjour, docteur Chipot.
Bonjour.
Allez-y.
Oui, en fait, moi, c'est juste pour partager une certaine expérience que j'ai eue dans le temps passé. Mm-hmm. C'était la nuit, j'ai rentré dans ma chambre et puis bon, soudainement, j'ai senti une certaine piqûre, une douleur intense qui est indescriptible. Et soudainement, quand je regardais, j'ai constaté que c'était un scorpion. Et maintenant, avec le soutien de la famille, on m'a amené dans un centre district, on m'a fait des piqûres antivenimineuses, on m'a donné des produits et on m'a ramené à la maison. Un des membres de la famille avait donné conseil à la famille de me mettre une pierre noire au niveau là où j'ai été piqué. Et maintenant, après quelques heures, la douleur a commencé à disparaître. Et mais j'ai une question. Au cas où il n'y a pas de centre de soins, quelle décision prendre?
Très intéressante votre question, Omar, parce que c'est fréquent hein, qu'il n'y ait pas un centre de soins ou un médecin ou quelqu'un qui a été formé à cette question à proximité quand ça arrive, hein, ces accidents. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, professeur Chipot?
C'est effectivement une question très intéressante, mais surtout très embarrassante, parce que je n'ai pas la réponse. Ce que nous essayons de faire, c'est de mettre à disposition des centres de santé les plus périphériques, les plus proches, des sites où les personnes se font piquer par des scorpions ou mordre par des serpents, on essaye de mettre des kits antivenimeux et de former le personnel de santé pour cette prise en charge. Mais effectivement, on peut habiter très loin du centre de santé le plus proche et nous n'avons pas de solution à cela. Peut-être faudrait-il travailler avec les thérapeutes traditionnels qui sont souvent beaucoup plus proches géographiquement de ces zones pour leur donner quelques outils. Ils en ont déjà bien sûr, mais peut-être augmenter d'autres, un petit peu leur arsenal thérapeutique de façon à ce qu'ils puissent eux assurer une première prise en charge avant l'évacuation vers un centre de santé.
Voilà pour cette réponse, Omar. Excellente journée à Zinder. On va terminer en regagnant la République démocratique du Congo, Lubumbashi, où l'on retrouve Kevin. Bonjour Kevin.
Bonjour Caroline, bonjour professeur, bonjour à tous vos auditeurs.
Bonjour.
On vous écoute, allez-y.
Oui, c'était il n'y a pas longtemps, j'ai revenu chez moi, c'était vers midi. Mm-hmm. J'étais habillé en blanc, noir, ma chemise était très blanche et ça brillait vraiment. En fait, c'était quoi? En marchant, j'ai vu une guêpe qui m'a attaqué. Moi, je croyais que c'était une mouche. Quand j'essayais de chasser avec ma main, directement, j'ai eu un coup. Après quelques minutes, j'ai vu que les guêpes se sont multipliées. J'ai réussi pas moins de 15 coups. Et j'ai vite couru dans la maison. Après, j'ai vu mon médecin. Il m'a dit, je vais faire quelque chose pour toi. Il m'a piqué. Du coup, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, ça allait. Alors, j'aimerais savoir, les guêpes, aussi, la couleur blanche, je croyais peut-être que c'était à cause de la couleur de ma chemise que les guêpes m'ont pu attaquer. C'était surtout ça ma préoccupation.
Est-ce que certaines choses, certaines couleurs, voire même certaines odeurs, peuvent attirer insectes ou reptiles et se rendre, en fait, rendre la personne plus vulnérable?
Alors, j'avoue ne pas savoir si les couleurs... Alors, c'est sûr que les couleurs agissent d'une certaine façon. On le sait bien puisque on utilise certaines couleurs pour chasser les mouches, y compris la mouche tsetse, hein, dans le cadre de la maladie du sommeil. Donc on sait que la couleur a une influence.
Mais comment on explique des attaques, on va dire, alors, de meutes comme ça?
En fait, je crois que le principal facteur, c'est la pénétration d'une personne dans un territoire. Les abeilles, on connaît très bien ça avec les abeilles, particulièrement dans certaines régions d'Afrique tropicale, mais aussi d'Amérique du Sud, où il y a des essaims entiers qui, lorsque l'on pénètre dans leur territoire, attaquent de façon à chasser l'intrus. Et là, je pense que c'est ce qui s'est passé. Vous êtes allé dans un endroit où, d'une part, vous avez pénétré dans le secteur des guêpes, et d'autre part, vous avez chassé une guêpe qui a pu, effectivement, envoyer un signal d'alarme à ses congénères qui sont venus la soutenir pour la défendre. Et ce processus est assez fréquent avec les hyménoptères, guêpes et abeilles, et pose de vrais problèmes. Parce que lorsque vous êtes piqué une fois ou 10 fois par une guêpe ou une abeille, ce qui se passe, c'est un problème d'allergie. Si vous êtes allergique, ce qui heureusement n'est pas très fréquent et n'est pas le cas pour vous. Mais il y a un autre phénomène lorsqu'on est piqué par plus d'une centaine d'insectes, ce qui est le cas dans les essaims, avec les essaims d'abeilles, notamment en Amérique du Sud, où il peut y avoir 500, 1000, 1500 piqûres. À ce moment-là, vous avez une véritable envenimation, puisque la quantité de venin correspond à 1000 fois celle d'un seul insecte. Et donc, par conséquent, nous essayons actuellement de mettre au point des antivenins adaptés à ce cas de figure.
Voilà,
qui,
Kevin,
ne vous a pas concerné dans ce cas-ci.
Cette fois-ci, oui. Voilà, Kevin, pour cette réponse. On l'a entendu, hein, avec les auditeurs. On a entendu parler de la pierre noire, mais on va dire qu'il y a d'autres trucs, il y a d'autres remèdes traditionnels. C'est très fréquent, hein, quand on parle d'envenimation. Avec cette question de RDC de Fernand, qui est à Mbujima, et qui dit « Pour la piqûre du scorpion, je prends des feuilles de patates douces que je frotte sur la zone piquée. La douleur dure 1 heure. Les personnes qui utilisent ces remèdes ont vraiment l'impression que ça marche. Là encore, c'est un facteur qui va être partagé entre l'action chimique et psychologique, ou on ne sait pas vraiment ?
Alors, on commence à étudier beaucoup les plantes, l'action des plantes. Il y a effectivement des plantes qui ont une action antivenimeuse. Et en particulier dans le cas de la douleur résulte d'un phénomène inflammatoire, c'est-à-dire que lorsque vous êtes piqué, lorsque un serpent vous injecte du venin, par exemple, il a dans son venin des enzymes qui vont provoquer la douleur. Il y a dans les plantes, et de façon très fréquente d'ailleurs, peut-être dans les feuilles de patates douces, je n'en sais rien parce que je ne connais pas les centaines de plantes qui sont utilisées, mais en tout cas, nous connaissons bien un certain nombre de plantes qui agissent, qui inhibent cette enzyme, et donc par conséquent, qui vont calmer la douleur. L'action locale des plantes est maintenant bien connue. Elle n'est pas encore complètement maîtrisée en termes de posologie, c'est-à-dire combien faut-il mettre de feuilles? Est-ce que toutes les feuilles de la même plante fonctionnent de la même manière? Est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes saisonniers, la plante pouvant sécréter plus ou moins de facteurs antivenimeux? Donc ça, nous ne le savons pas encore. Et nous travaillons avec des thérapeutes traditionnels qui, d'une part, nous indiquent les plantes et, d'autre part, nous indiquent leurs trucs. Parce que eux ont remarqué un certain nombre de choses. Donc, il y a cette solution-là qui n'est pas encore bien connue, que nous explorons, et on est très intéressé par toutes ces expériences-là, parce que justement, ça pourrait être, dans le cas d'une morsure ou d'une piqûre qui a lieu loin d'un centre de santé,
un premier recours.
Ça pourrait être un premier recours.
Vous restez avec nous, on va partir tout de suite pour le Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Absalam Faye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'information toxicologique au centre antipoison de Dakar. Docteur Faye, quels sont les serpents, les espèces venimeuses que l'on peut rencontrer dans votre région?
Alors, au Sénégal, nous avons presque toutes les espèces de l'Afrique tropicale. Donc, à part les couleuvres qui ne sont pas venimeuses, les espèces venimeuses sont du genre Equis, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Chipot, avec l'espèce Equis pelatus. Mais nous avons aussi des bitis. les Bitis arietens aussi, qui sont assez fréquentes. Donc, pour cela, c'est famille des vipères, mais pour les vélapidés, nous avons le genre Naja, avec le Naja nigriculis, qui nous pose beaucoup de problèmes aussi, mais aussi les mambas, donc les mambas verts et les mambas noirs dans cette zone forestière aussi.
Est-ce que vous avez des chiffres, des remontées d'études, justement, sur les envenimations au Sénégal, Dr Fay?
Oui, en effet, nous avons fait une étude récente, bon, la dernière étude, en fait, qui date de 2016-2017, où nous avons fait une enquête ménage au niveau du bassin Arachidié. Et l'incidence globale dans cette zone, donc entre Kaola, Catherine et Fatik, nous avions une incidence globale de morsures de serpents, plutôt environ de 50 morsures pour 100 000 habitants.
Avec certaines professions, excusez-moi de vous avoir interrompu, avec certaines professions qui sont particulièrement concernées, parce que vous parlez du bassin Arachidié, est-ce que ça veut dire que les agriculteurs sont en première ligne?
Exactement. Donc environ 90%, c'était des cultivateurs. Oui.
Est-ce que les gens ont vraiment conscience de ce risque? On imagine, oui, dans les professions vulnérables, mais est-ce que c'est, par exemple, des mises en garde que donnent les familles aux plus jeunes, aux enfants, tant hein, d'ailleurs pour les serpents que pour les scorpions?
Oui, exactement. Il s'agit d'une préoccupation pour les populations, hein, surtout dans cette zone rurale, où ils savent déjà que pendant cette période, dès qu'approche l'hivernage, beaucoup de cas de morsures de serpents sont enregistrés et donc il y a des précautions qui sont prises, peut-être qui ne sont pas exhaustives parce qu'on n'a pas les moyens peut-être de faire la prévention dans ce sens, mais il s'agit quand même d'une préoccupation, la population en est consciente et les professionnels de santé aussi. Donc dès cette période, il y a des précautions qui sont quand même prises.
Et il y a un risque, donc vous le soulignez, un risque saisonnier par rapport aux morsures?
Enfin, un risque saisonnier, ça va.
C'est-à-dire
être...
qu'il y a un moment donné où c'est accentué, ce risque.
Exactement, exactement. À partir du mois de mai-juin jusqu'en décembre, hein, donc c'était novembre-décembre, on a plus de cas notifiés que par rapport aux autres périodes.
Alors, on a parlé des différentes espèces qui ont l'air donc très nombreuses. Et du côté des sérums anti-venins, docteur Absalam Faye, est-ce qu'ils sont vraiment disponibles au Sénégal?
Oui, le sérum anti-venimeux est disponible au Sénégal. Disponible au niveau des structures publiques, après l'approvisionnement par la pharmacie nationale, et aussi disponible au niveau des pharmacies privées. Maintenant, le souci, ce serait que les victimes se dirigent vers les structures de santé pour qu'il y ait une pérennisation de l'approvisionnement.
Et ce que vous constatez, c'est que les victimes, justement, comme on l'a d'ailleurs entendu tout à l'heure au travers des témoignages des auditeurs, ben, ne vont pas forcément vers ces centres de santé, mais se tournent vers la médecine traditionnelle. C'est bien cela?
Oui, c'est bien ça. Exactement. Ils se dirigent en première intention, en tout cas, vers les praticiens. Et que maintenant, au niveau des structures de santé, c'est pour ça que nous ne recevons pas, en fait, le nombre exact qu'il faut. Donc, les notifications sont biaisées. C'est pour ça que, donc, l'approvisionnement, il y a un problème d'approvisionnement. Parce que si c'est mis en place, parce que d'ailleurs, même l'autorité sanitaire avait exigé à toutes les structures publiques de mettre en place au moins 2 doses en prévention. Donc, si les populations ne se dirigent pas vers les structures de santé, vous voyez, avec si les médicaments sont périmés, après, ça pose un problème pour renouveler le stock.
Mais on imagine aussi, Dr Faye, que les populations peuvent craindre qu'il n'y ait pas les produits dans ces structures. Donc, on peut comprendre aussi d'un certain côté qu'il n'y ait pas ce réflexe d'aller vers le centre médical et de s'en tenir aux bonnes vieilles habitudes.
Oui, c'est vrai. Nous, en tant que professionnels de santé, ce sera dans ce sens qu'on va beaucoup agir dans la sensibilisation pour que les victimes s'orientent en première intention, au moins vers les structures de santé. Donc, c'est une action que nous menons avec la direction de la prévention. Et puisque d'ailleurs, les envenimations sont inscrites sur la liste des maladies tropicales négligées, en collaboration avec ce programme, nous menons des séances de sensibilisation au niveau communautaire. Donc au plus bas pour qu'ils puissent s'orienter vers les structures de santé.
Donc un gros effort de communication à faire pour que justement, hein, en cas de morsure, en cas de mauvaise rencontre, eh bien on aille vers un centre de santé pour être pris en charge. C'est très important. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, de docteur Absalam Faye. Je rappelle que vous êtes également secrétaire général de la Société africaine de vénimologie.
RFI à Dakar, 92 FM.
Alors on vous retrouve pour la dernière partie de nos échanges, professeur Jean-Philippe Chipeau. On a parlé très brièvement de la dimension psychologique du choc que représente la morsure. Il y a bien sûr la douleur, il y a la peur. Comment justement on explique, même si tout le monde pratiquement a peur des serpents, comment on explique cet affect particulier par rapport à cet animal ?
Je pense qu'il y a deux composantes. Il y a une composante culturelle. Le serpent est dans toutes les... Non, pas toutes, mais dans la plupart des cultures, un animal qui apporte le malheur. Et donc, par conséquent, on a ce poids de façon inconsciente. La deuxième chose, c'est que c'est l'angoisse d'une maladie courte et dont l'issue... a, pour beaucoup de personnes, a tout le risque d'être fatal. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui sont mordues par un serpent s'imaginent qu'elles vont mourir. Et ça a de quoi quand même angoisser.
Oui, ça refroidit.
Or, en fait, il faut les rassurer pour leur dire que sur 100 morsures de serpent, il y en a déjà à peu près 50 pour lesquelles il n'y a pas de troubles cliniques, du tout. Il n'y a pas d'envenimation. Alors, il reste l'inquiétude, bien sûr, mais ça doit quand même... alléger un petit peu l'angoisse. Sur ces 50 qui restent et qui ont une envenimation, il y en aura probablement, enfin, sans traitement, il y a un risque de décès qui est de l'ordre de 5 à 10%. Donc, je ne nie pas que ça existe, je ne nie pas que ce ne soit pas trop élevé, mais ça reste quand même relativement réduit. Ça représente peu de cas par rapport à l'ensemble. Et lorsque l'on est pris en charge suffisamment rapidement avec de l'antivenin, ce risque n'est pas annulé complètement. Il n'y a aucun médicament qui guérit à tous les coups 100%. Ce n'est pas miraculeux. L'antivenin n'est pas un traitement miraculeux. Mais il réduit le risque d'un facteur de plus de 90%, c'est-à-dire qu'il reste moins de un patient qui risque le décès. Donc, je pense qu'il faut rassurer d'abord les personnes qui sont mordues avec ça.
Alors, on a bien compris l'enjeu de l'accès aux antivenins. Il y a autre chose qui est très important, il nous reste à peu près une minute pour en parler, c'est la connaissance mondiale de la géographie du risque, la géographie des serpents, on va dire une cartographie. Est-ce qu'elle existe aujourd'hui, professeur Chipeau ?
Alors, il y a des tentatives, mais il faut bien comprendre que c'est très compliqué, parce que ça dépend des serpents, les serpents venimeux, ça dépend de leur abondance, c'est pas seulement l'existence d'une espèce dans un endroit, ou encore faut-il qu'elle soit abondante, il faut qu'elle soit proche de l'homme, ce qui n'est pas le cas de toutes les espèces, il faut que l'homme soit en contact avec, c'est-à-dire qu'il ait une activité qui le mette en contact avec ces espèces-là, et ensuite il faut qu'il y ait peu de recours thérapeutiques, ce qui est le cas malheureusement en Afrique subsaharienne, où, comme vient de le dire le docteur Lam, il y a un accès très compliqué, on va dire, aux antivenins.
Merci beaucoup, hein, merci infiniment pour votre éclairage, professeur Jean-Philippe Chipeau. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Et tout de suite, dans Priorité Santé, on parle santé, alimentation et nutrition avec vous. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Aujourd'hui, on va se poser une question, hein, comment éviter les problèmes de transit intestinal, Stéphane ? Alors déjà, qu'est-ce qui caractérise un transit intestinal normal ?
Alors, il faut rappeler que le transit intestinal, ça représente le processus qui permet aux aliments, hein, sortant de l'estomac, sous forme de chyme, de migrer vers l'anus pour être évacué. Et en fait, c'est en fait ce chyme, qui est une sorte de bouillie, hein, qui va être formée du coup par les aliments une fois qu'ils sont passés par le suc digestif, la salive et le suc gastrique, qui sera acheminé par l'intestin grêle, puis le côlon, vers le rectum pour sortir sous forme de sel. Donc il faut bien se rappeler que c'est au cours de ce transit, donc dans toute cette longueur de l'intestin, que vont être réabsorbés petit à petit les nutriments et que du coup c'est que les substances non absorbables qui vont partir dans les selles. Et un transit intestinal normal va se caractériser par une évacuation du tube digestif qui se fait plus de 3 fois par semaine. Et pour que ce transit soit dit normal aussi, il faut que cette évacuation se fasse sans douleur.
Alors justement, on en vient à ces dérèglements du transit. Quels sont ces principaux dérèglements ?
Alors ben, il y en a deux qui sont très connus, hein, qui sont la constipation et la diarrhée. Le premier, la constipation, qui va se définir par une fréquence des selles qui est trop faible, avec des selles qui sont trop dures et qui va rendre leur émission difficile. Alors c'est assez simple pour savoir si on souffre de constipation ou pas. Il suffit de compter en gros combien de fois on va à la selle. Et si les émissions de selles sont inférieures à 3 fois par semaine, on parle alors de constipation. Alors, il faut savoir aussi que la constipation, surtout quand elle s'aggrave, va s'accompagner de douleurs, avec des douleurs abdominales, des crampes, et dans certains cas vraiment extrêmes, il peut y avoir une apparition de fièvre. Alors, l'origine de cette constipation, elle est multiple. Hein, on peut retenir 3 facteurs. Le premier, c'est souvent un volume de sel trop faible. Alors ça, c'est lié directement à l'alimentation et à un apport en fibres qui est souvent insuffisant. Une insuffisance d'hydratation aussi, hydratation qui va donc du coup entraîner une insuffisance de l'hydratation des selles. Et enfin, une activité physique insuffisante puisqu'il y a un lien avec l'activité physique. Et pour terminer, il faut pas confondre, faire très attention, la constipation qui est due du coup à cette question de transit avec d'autres maladies qui, elles, nécessitent vraiment une intervention, qui vont être une obstruction totale. Et là, ce sera par exemple le cas des hémorroïdes et c'est 2 choses à différencier par un avis médical.
Alors, autre dérèglement possible, cette fois, la diarrhée, comment la définir ?
Alors là, c'est complètement l'inverse. Hein. La diarrhée, ça va être une fréquence de selles trop importante. On la définit par des selles supérieures à 3 fois par jour, qui sont molles et liquides surtout. Et ça, c'est plus compliqué et plus dangereux parce que la multiplication de ces selles va faire entraîner une perte de minéraux et aussi une déshydratation. Et notamment chez les personnes âgées et les enfants, il faudra être très méfiant parce que cette déshydratation peut avoir des causes graves de santé. Donc, il faudra surveiller et surtout réhydrater de manière importante. Alors là, les causes de la diarrhée, elles sont plutôt liées à des causes infectieuses, bactériennes, virales. Ça peut être aussi des intolérances ou des allergies alimentaires. Et aussi, pour les gens qui voyagent, on le sait bien, c'est ces intoxications qu'on appelle les diarrhées du voyageur.
La tourista qui est bien connue. Et puis enfin, Stéphane, quels sont les conseils à suivre pour avoir un transit le plus normal possible ?
Alors déjà, comme pour tout, hein, avoir une alimentation qui va être équilibrée et diversifiée. Et en plus, augmenter, comme on l'a vu avant, l'apport en fibres pour arriver à atteindre les 30 grammes par jour nécessaires de fibres, c'est-à-dire plus de fruits, de légumes, de salades, des céréales complètes plutôt que les céréales blanchies. Ça va être de ne pas avoir une alimentation trop grasse, de très bien s'hydrater, de ne pas être déshydraté, de respecter les recommandations d'activité physique, puisqu'on a vu qu'il y avait un lien avec les fameuses 30 minutes 5 fois par semaine minimum. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des aliments comme le pruneau, le miel, la graine de lin et la bardane en infusion ou pris dans des yaourts ou plein de modes différents va permettre de naturellement favoriser un transit normal.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. On vous retrouve très prochainement dans Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Cétou Samaké, Ophélie Lassène et Didier Bleu. Aujourd'hui avec nous, Laurent Hérault. On se retrouve demain, dès 9h10, temps universel.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance. N'oubliez pas de renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Bonjour à tous, c'est Juan Gomez.